14, c'est le grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1 avec vous Mathieu Charrier et à présent votre premier invité.
Oui, je suis très heureux d'être en ligne avec Patrick Peloux, bonsoir.
Mais moi aussi, bonsoir.
Médecin urgentiste, président de l'Union des médecins urgentistes hospitaliers de France, vous étiez en ligne avec nous la semaine dernière à la même heure. Première question simple, depuis il y a eu le confinement, le Covid-19 qui gagne du terrain, qu'est-ce qui a changé pour vous au quotidien? Comment ça va ce soir?
Ce soir, la situation dans les services d'urgence est très disparate à travers la France. Mais ce qu'on constate tous, parce qu'on a fait avec la MUF, on a fait le point tout à l'heure, en fait, c'est l'Association des médecins urgentistes de France, en fait, toutes les activités qu'on a classiquement au niveau des urgences sont totalement modifiées, parce que évidemment, comme il y a le confinement, il n'y a plus d'accidentologie, il n'y a plus d'accidents du travail, donc il y a une partie de notre activité qui se sont arrêtées. Par contre, de manière très disparate, mais un peu partout en France, il y a des patients qu'il faut prendre en charge pour suspicion du Covid-19. Donc ça c'est un enjeu important. Il y a bien sûr depuis la semaine dernière, vous l'avez souligné sur Europe 1 à plusieurs reprises, vous avez un gros problème dans l'Est, d'accord. La nuit dernière, ils ont intubé 29 malades aux urgences de Mulhouse. C'est du jamais vu, hein. D'habitude, on intube en moyenne un malade par semaine sur les 24 heures par jour. Donc, c'est très rare. Et donc, il y a une situation qui empire. Les constats à l'intérieur de la profession, à la fois des réanimateurs et des urgentistes, c'est qu'en fait, on est frappé par le fait que les patients sont plus jeunes que ce qu'on nous avait dit avec les chiffres de la Chine. C'est-à-dire qu'on voit énormément de personnes de 40 ans, 50 ans, en fait.
Oui, c'est pas que des personnes âgées.
Ouais, plus que de personnes âgées. Ouais, actuellement, c'est ça. Ouais.
Et le ministre de la Santé, Olivier Véran, il y a un peu plus d'une heure, là, a dit que les masques, ça y est, commençaient à arriver, que la chaîne d'approvisionnement se met en place, on en commande des millions partout dans le monde. Vous les voyez arriver dans les hôpitaux, ça y est, vous êtes équipés?
Alors non, c'est très disparate, mais je fais confiance au ministre, parce que je pense qu'il a les informations qu'on n'a pas et qui remontent des industriels, et moi je crois au sursaut patriotique de nos industriels, enfin je le veux d'ailleurs. Donc d'un coup ça suit son cours en fait, je pense que les masques vont arriver, il est temps qu'ils arrivent bien entendu pour les personnels hospitaliers, mais aussi pour les médecins, les infirmières de ville, hein, qui font un travail absolument essentiel au niveau des secteurs de ville, et puis bien entendu les EHPAD. Mais il ne faut pas oublier, parce que ça c'est hyper important, la santé ne peut pas tout, et il faut absolument que l'ensemble des services qui font tourner la société, même au ralenti, je pense aux éboueurs, je pense aux policiers, je pense aux facteurs, à ceux qui font l'électricité, qui nous permettent de nous parler grâce au téléphone, etc. Il faut que c'est l'ensemble de ces personnes qui ne peuvent pas être confinées pour que le pays continue à tourner et des masques. Donc c'est un enjeu énorme. Je pense qu'il faudra en tirer des conclusions sur l'indépendance de notre pays, sur la stratégie politique de notre pays.
Patrick Peloux, il y a ces vidéos qui commencent à circuler sur les réseaux sociaux. On voit les services hospitaliers italiens complètement débordés. C'est ça qui nous attend aussi en France dans les jours qui viennent?
Je ne le souhaite pas, et on fait tout pour que ça ne soit pas ça que nous ayons. Mais c'est très difficile parce que vous savez, ce qui est en train d'être vécu par dans l'Est de la France, sur Mulhouse, sur Belfort, Montbéliard, c'est quand même quelque chose d'important, de grave. Et j'espère que c'est pas ça qu'on aura. Mais ça m'étonnerait que ça soit ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, le système de santé italien a été totalement laminé par la politique ultra-libérale, totalement débile de Berlusconi. Sachez qu'en Italie, ils ont moitié moins de réanimation que nous, par exemple. L'état de santé des Italiens, en termes de santé publique, ils n'ont rien eu. En termes de médecine préventive, ils n'ont rien, etc. Donc, c'est une population qui est totalement différente de la nôtre. Nous, je pense qu'on est plus armés à affronter cette vague, mais qui va arriver de la même manière, de toute façon.
Il y a aussi ce document, Patrick Peloux, priorisation de l'accès aux soins, dont on a pris connaissance dans la presse, qui doit en principe vous aider à faire le tri dans les malades le jour où vous allez peut-être être débordé. Lesquels soigner, lesquels, pardonnez-moi l'expression, sacrifier, vous y êtes prêt aujourd'hui à faire ces choix?
On y est prêt, mais vous savez, il ne faut pas faire plus peur aux gens que ça. On ne va pas trier les gens en disant « lui, il va mourir, lui, il ne va pas mourir ». C'est pas ça du tout ce qu'on est en train de mettre en place. Ce qu'on est en train de mettre en place, c'est de dire que de toute façon, on ne va pas faire ce qu'on ne fait pas d'habitude par rapport à la loi bioéthique et l'acharnement thérapeutique. C'est-à-dire qu'en fait, à l'heure actuelle déjà, les personnes qui sont en fin de vie, en perte totale d'autonomie, grabataires et démentes, on sait qu'on ne les sauvera pas. Donc on ne va pas utiliser des lits de réanimation et des prises en charge pour essayer de sauver des gens que d'habituellement nous ne sauvons pas, parce qu'on ne peut pas les sauver. D'accord ? Donc c'est dans ce sens-là que ce guide a été fait, pour que finalement on ne sature pas les réanimations avec des gens qu'on ne sauvera pas de toute façon, pour privilégier ceux dont on est sûr que l'on peut avoir un pronostic favorable. Voilà, c'est dans ce sens-là. Mais n'ayons pas un discours pour dire aux gens « Attendez, maintenant vous allez être triés et puis non, c'est pas du tout. On va prendre en charge tout le monde, de toute façon, et on va essayer de sauver le plus de monde possible. » C'est pour ça, à ce propos, que dans le débat par rapport à la Nivacine et au Zitromax, nous, on est plutôt à l'Association des médecins urgentistes de France. On est favorable à la prise en charge et à la thérapeutique qui est élaborée à Marseille par le professeur Raoult. Et qu'elle
pour expliquer, ce sont des médicaments qui, selon le professeur Raoult, il y a des tests qui sont en cours, mais pourraient aider à soigner les patients atteints de coronavirus.
Oui, oui, oui. Et nous avons des informations concordantes de terrain de collègues médecins qui les ont employés et qu'il y a eu des améliorations des malades. Donc, il y a un moment donné, puisque c'est un débat qui dépasse maintenant le débat simplement des universitaires, qui quelques-uns voulaient garder pour eux d'ailleurs, mais maintenant c'est un débat qui est politique, stratégique et qui est dans le domaine public, et donc il faut prendre parti, et je pense qu'on a raison, il faut mettre toutes les chances du côté des malades.
Et ça donne un petit peu d'espoir, effectivement. Qu'est-ce que vous ressentez, Patrick Pelloux, chaque soir, quand vous entendez ces centaines de milliers de personnes, peut-être même millions de Français qui applaudissent à leur fenêtre, qui vous applaudissent, vous les soignants ?
Ça fait chaud au cœur, mais je le prends pas pour moi. Je pense qu'ils applaudissent la France. Je pense que c'est une espèce de communion. On s'applaudit nous-mêmes, en fait. On se donne de l'espoir. C'est un petit peu un acte vraiment de fédération de la population. Et c'est encourageant. C'est-à-dire qu'on se dit que, vous voyez, là je suis de garde ce soir au SAMU de Paris, eh bien je suis fier d'avoir cette fonction et je veux croire que je suis utile à la population et aux malades. Voilà, on prend des risques, parce que il faut le souligner, beaucoup de médecins tombent malades, d'infirmières, d'aides-soignants, d'ambulanciers, parce qu'ils ont été en contact avec le virus. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait qu'il faut qu'on soit bien protégé pour bien travailler et faire notre métier jusqu'au bout. La partie n'est pas gagnée. Il n'y a jamais de partie gagnée. Mais on sait que ça va aller. Il faut garder le moral. Je sais que c'est difficile d'être confiné. Il y a une bataille qui est en train de se jouer. Ce n'est pas la guerre. C'est une vraie bataille sanitaire. C'est une bataille sociale pour qu'on puisse tous vivre mieux après. C'est ça l'enjeu.
Et Patrick Pelloux, pensez-vous qu'aujourd'hui, l'État, les autorités sanitaires gèrent bien cette épidémie ? Il communique beaucoup, mais est-ce qu'il la gère bien ?
Oui, je crois, je vois pas ce qu'on pourrait faire de mieux avec l'état actuel du système sanitaire, etc. Je reviens pas sur tout ce que vous m'avez déjà permis de dire sur vos antennes, sur la situation catastrophique de l'hôpital. L'hôpital était à genoux et là on nous a demandé d'être debout pour sauver les malades et aider la France. On le fait, mais il faudra s'en rappeler après. C'est-à-dire qu'on ne nous ressort pas après les mesures économiques, qu'on n'a pas le temps. Il faudra réorienter tout ça. Pour l'instant, ce débat qui est politique et social, il faudra l'avoir après. Moi, j'ai confiance. Je trouve que le professeur Salomon, directeur général de la santé, fait bien son boulot. Je trouve que la direction générale de l'organisation des soins fait bien son boulot. Que les agences régionales de santé sont attentives, ils font bien leur boulot. Que le directeur de l'assistance publique hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, fait bien son taf. Et on est solidaires avec eux. Et ce qui permet à nous, infirmiers, aides-soignants, ambulanciers, manip radio, médecins, réanimateurs, toutes les disciplines, d'être vraiment concentrés pour sauver des vies. Et c'est ce qu'on fait. Et on le fait vraiment avec toute notre âme et toute notre humanité.
Et on vous en remercie, Patrick Pelloux. Merci beaucoup pour votre message encourageant ce soir. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce soir, médecin urgentiste, président de l'Union des médecins urgentistes hospitaliers de France. Et puis, j'ai envie de vous dire bon courage et merci au nom de nos auditeurs.
Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée.